Même audio. Vous ne l'avez pas vu? Vous pouvez l'entendre.
Messieurs, dames, si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Bonsoir. Une question, et puis peut-être sous forme d'humour, une contestation. Une question. Qu'est-ce qui explique la séquence de dynamique meurtrière que vous avez évoquée en 1941 et l'exemple roumain ? Et la contestation, non, c'est pas un rétablissement de fait, mais c'est la chronologie. Mera, l'antisémitisme, probablement, c'est intéressant ce que vous avez dit, mais il a commencé par tuer des militaires. Voilà.
Je ne l'ai pas nié.
J'ai pas dit que vous l'aviez, j'ai dit sous forme d'humour.
Oui, oui, oui. Non, on m'a interrogé sur l'antisémitisme de Mera, pas sur les actes de Mera. Mera commence par tuer des symboles de la République et l'engagement dans l'armée républicaine avant de tuer des juifs qui représentent aussi autre chose pour lui. Mais non, du coup, il n'y a pas de contestation, on est d'accord.
Non, je plaisante.
Oui, j'ai bien compris.
C'est de l'humour juif, c'est... pardon.
Du coup, si je dis que j'aime pas, j'ai passé pour un antisémite. Donc, mais non, pour répondre à votre question, l'été 41 est un moment très important dans la Seconde Guerre mondiale avec le déclenchement de l'invasion de l'URSS. L'invasion de l'URSS, elle s'inscrit à la fois sur un fond de tension, mais qu'on retrouve aujourd'hui avec ce qui se passe en Ukraine de revendications territoriales, mais ultra morcelées. Parce que tous les pays qui composent, on va dire, l'arc autour de l'URSS, a commencé par l'Allemagne, mais la Pologne aussi, avant d'être envahie elle-même, a voulu dépecer ses voisins, jusqu'à la Roumanie, avec la Moldavie et la Transnistrie, tous voulaient des territoires chez les uns, chez les autres. Donc vous avez ça. En plus, vous avez un élément très important qui apparaît surtout après la Première Guerre mondiale, qui est le mythe judéo-bolchevique. Et qui a un mythe très puissant qui va s'ancrer dans tout cet espace-là, où l'URSS, c'est l'incarnation des Juifs. Et donc, forcément, toutes les tensions avec l'URSS et tout le rejeu et les ressentiments dans ces États-là sur les pertes territoriales s'expliquent par un élément majeur, les bolcheviques, autrement dit les Juifs. Et ce type de tension, vous le retrouvez aussi en Pologne, vous avez toute une vague de pogroms quand les Allemands envahissent la partie polonaise occupée par les Soviétiques. Vous avez notamment le tristement célèbre pogrom de Jedwabne. Donc on est vraiment dans ce moment-là où on a déchaînement de violences populaires contre les Juifs auxquels on fait payer le bolchevisme. C'est vraiment ça le déclencheur. Et donc cette vague de violence vient s'inscrire dans tout l'ensemble de l'antisémitisme et des violences qui se sont diffusées depuis le milieu des années 30. Si on prend la Roumanie, on a un régime roumain qui a réactivé l'antisémitisme d'État qui venait à peine d'être disqualifié quelques décennies avant. Donc il ne faut pas oublier que la Roumanie a été hautement antisémite et que jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, ça a été une terre importante d'antisémitisme. Donc craquer une allumette suffisait à déclencher les violences. Et c'est la même chose dans les Pays-Baltes au même moment, dans la Pologne, même si elle est occupée au même moment, ensuite en Moldavie, en Ukraine occidentale au même moment, du fait à chaque fois de nationalités locales, des Ukrainiens, des Roumains, des Lettons, etc. etc. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais c'est à peu près tout ce que je peux répondre.
Y a-t-il encore une question au fond de la salle ? Je vois au milieu et au fond.
Je l'ai vu bouger.
J'ai une petite question, je vais essayer d'être assez claire. Je voulais savoir s'il existait des indices qui nous laisseraient, enfin nous, n'importe quelle population ou société, comprendre qu'on passe d'une haine, on va dire, qui est là, mais où il n'y a pas de violence, à un cran au-dessus où il y a des violences. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
Oui, je vois. Alors, je pourrais essayer de prétendre de vous répondre, mais je pense que ça serait un peu absurde d'essayer de répondre à cette question. Mais on peut essayer d'utiliser des éléments contemporains pour essayer de réfléchir au passé. Si vous prenez, par exemple, le mouvement des Gilets jaunes, C'est un mouvement protestataire qui, au départ, proteste contre le coût de la vie. Il ne s'agit pas là de justifier quoi que ce soit. Et vous avez vu que d'un coup, vous avez une explosion de violence, par exemple, à Paris, où on a détruit littéralement du mobilier urbain, des façades de magasins, et jusqu'à des symboles. Enfin, on s'est attaqué à l'Arc de Triomphe. Qu'est-ce qui explique qu'à ce moment-là, on a un déclenchement de violence ? Ben, très objectivement, je ne vois pas, moi, ce qui explique qu'à ce moment-là, en France, on a un déclenchement de violence. On proteste, mais comme on a toujours protesté en France, des dégradations dans les manifs, il y en a toujours eu, ce n'est pas une nouveauté. Pour ceux qui se rappellent des années 70-80, il y avait ce qui était appelé les autonomes, qui passaient leur temps à caillasser et à balancer des écrous et des boulons. Donc ça s'est toujours pratiqué. Mais pourquoi là, on a eu à ce moment-là une explosion de violence qui a tourné les caméras du monde entier sur la France ? Je ne sais pas si qui que ce soit peut apporter une réponse. Qu'est-ce qui fait, si on en vient à la question des violences antisémites, qu'à un moment précis, on se met à tuer ? C'est excessivement difficile de répondre. Pareil, si on prend la vague actuelle de violences contre les Juifs en France et les tueries, le premier assassinat effectif, c'est Ilan Halimi. Pourquoi à ce moment-là, Ilan Halimi est tué alors qu'il n'y a pas de violence majeure en France ? Alors, on peut essayer de réfléchir à ce qui se produit à ce moment-là en France. C'est le début de la vague Dieudonné Soral, par exemple, mais ils ne sont pas encore ultra-dominants comme ils vont l'être dans les années après. Le conflit israélo-palestinien, il est là, mais il a toujours été là. Donc ça aurait pu se produire dans les années 90. Donc qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là précis, ça commence ? Je ne peux pas vous dire. Pour ce qui est de la Shoah, on peut essayer de le cerner plus finement, mais pareil, il n'y a pas une explication. Vous avez un enchaînement de violences politiques, sociales, physiques, en Allemagne, en Autriche, en Roumanie, en Hongrie, en Pologne dans les années 30. On tue des Juifs en Europe dans les années 30. Le pogrom de novembre 38, ce qui est appelé la nuit de cristal, c'est plus d'un millier de Juifs assassinés. Donc ce n'est pas non plus quelque chose qui tombe du ciel comme ça avec la Seconde Guerre mondiale. En Roumanie ou en Pologne, il y a des pogroms dans les années 30. Donc on a des vagues de violence. Qu'est-ce qui explique qu'à un moment, on a un déclencheur ? Honnêtement, j'en sais rien.
Bonsoir. Vous parliez de comment on s'inscrit dans le débat de l'actualité. Donc je comprends bien que l'historien il s'appuie sur des choses qui se sont passées et qu'il a besoin de prendre du recul. Pour s'inscrire dans l'actualité immédiate, comment on fait pour prendre du recul et pour être certain que les faits qu'on considère être les vrais le sont ?
Il y a un dicton en France qui dit qu'il vaut mieux tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Il y a beaucoup de gens qui feraient bien de se l'appliquer. Mais ça vaut pour les commentateurs. La question, c'est de savoir comment on a affaire à quelque chose de réel dans l'actualité. Le truc, c'est qu'on n'est jamais sûr de rien en soi. Maintenant, moi, je suis assez sûr que le 11 septembre 2001, il y a deux tours qui sont tombées à New York et que le Pentagone a été visé. Ça, je suis assez sûr. Voilà. Je suis assez sûr que la Russie de Poutine a envahi l'Ukraine. Voilà. Factuellement, je suis assez sûr de ça. Donc, on peut toujours craindre de se tromper, mais si on craint toujours de se tromper, on ne fait rien. Maintenant, il y a aussi le fait qu'on ne peut pas non plus réagir sur tout en permanence et avoir un avis sur tout. Si on prend la pandémie, par exemple, qu'on a tous subie, moi, j'ai fait des études d'histoire, pas de médecine, donc pendant 2 ans, j'ai fermé ma gueule sur ce sujet-là. Voilà, donc... Après, j'ai un avis sur le port du masque ou des choses comme, ou le non-port du masque, sur la vaccination, enfin, ou plutôt un avis médical fondé sur ce que disent les médecins. Voilà. Mais il ne s'agit pas d'être en mesure de donner un avis sur tout. Il s'agit juste de donner un avis sur ce à quoi on est fondé de le faire. Où on a, je ne parlerai même pas de compétence, mais un semblant de connaissance. Voilà, c'est juste ça. Et ensuite, donner son avis sur tout, honnêtement... Enfin, bon, moi, j'ai la chance d'avoir un peu, on va dire, de reconnaissance, et donc je suis régulièrement sollicité sur de l'actualité. Mais moi, je ne suis pas commentateur d'actualité. Enfin, moi, mon boulot, c'est de faire de l'histoire. Donc non, je ne vais pas aller commenter l'invasion russe de l'Ukraine, par exemple, parce que je ne suis pas spécialiste des forces en présence en termes militaires. Je ne suis pas spécialiste de renseignement, d'espionnage ou des relations entre la Russie et la France d'un point de vue diplomatique. Il y a des gens qui sont mieux placés que moi. Donc je n'ai pas vocation à donner mon avis là-dessus. J'ai un avis sur l'agression, enfin l'invasion qui a été commise. Là, oui. Donc là, je ne vais pas me tromper. Factuellement, c'est assez simple. Et mon avis découle de cette simplicité qui montre que je suis... Voilà. Mais après, je ne pense pas qu'il y ait matière non plus à avoir un avis sur tout. En général, les gens qui ont un avis sur tout, ça ne vaut pas grand-chose.
Une dernière question, Jean-Luc ?
Vous venez partiellement d'y répondre. Je voulais vous demander justement que va décider Vladimir Poutine envers l'Ukraine, malgré que toute l'Europe soit contre. Qu'est-ce qui va se passer ? Alors. Vous n'êtes pas prophète, vous venez de le dire.
Par contre, je vais vous donner les numéros du loto pour demain.
Non, ça... mais j'aimerais avoir votre avis quand même, parce que vous en avez un.
Ah, mon avis ?
Oui. Vous voyez quand vous êtes embêté pour répondre.
Ah non, j'ai mes analyses.
C'est ça que j'aimerais savoir.
Bah, il va bouffer la moitié de l'Ukraine, la moitié orientale russophone. Il va mettre tout le monde devant le fait accompli. Tout le monde va dire... C'est très bien, merci, au revoir. Donc Antoine a dit qu'il allait me réinviter, on en reparle dans un an.
Pour merci une des rares fois de ma vie, j'espère que Tal Brutman se trompe.
Non mais honnêtement, il est impossible de savoir ce qui va en découler. Et de toute façon, l'objectif de Poutine est très simple, annexer le maximum de territoire ukrainien fondé sur la revendication du fait qu'on a affaire à des minorités russes, des nationalités russes qui se trouvent en Ukraine. C'est ça son objectif. Voilà. Ah mais, je vais vous dire que je suis d'accord avec vous, mais le seul problème c'est que nous, on peut pas, mais de nous on s'en fout. Le nous étant que, vous voyez bien que même une grosse partie du personnel politique en France, au moins 3 candidats sont plutôt amoureux de Poutine, passent leur temps à dire que c'est mal de livrer des armes aux Ukrainiens. Donc, en fait, je pense qu'on est dans une salle qui est acquise à des idées plutôt démocratiques. Mais il faut bien comprendre qu'en France, depuis au moins 25 ans, on a des candidats d'extrême droite au second tour. Il n'y a pas juste les Ukrainiens qui seraient nazis, les Français aussi. On a des candidats d'extrême droite au second tour. On a aussi un candidat de gauche radical qui a des accointances qui sont parfois franchement nauséabonde, et que tout ça additionné fait que le point de vue que vous venez d'exprimer et que je partage totalement, il n'est pas forcément ultra dominant en France. Ben voilà, ben, c'est tombé, on a des présidentielles bientôt. Je pense que ça va changer de toute façon.
La toute dernière question, Jean-Luc.
Merci, bonsoir. Le monsieur dont on a beaucoup parlé ce soir, qui déclare donc que Pétain a sauvé les Juifs français, ça te prend ça 3 secondes pour dire ça. 3 secondes. Mais moi qui ne suis ni médecin ni historien, pour démonter cette affirmation, j'ai besoin de chercher un historien spécialiste qui va passer, enfin, je ne vais pas chronométrer, mais enfin plus d'une heure, à m'expliquer en quoi c'est une énorme bêtise. Et donc, c'est pour plein de sujets, pareil. Donc, si vous voulez, il y a une telle différence d'appréciation que le simple citoyen, il est un peu noyé. Ben, moi, je suis noyé.
Non, mais vous...
Le citoyen.
Vous avez totalement raison, et c'est là le problème, mais... Regardez, pendant la pandémie, le nombre d'abrutis qui nous ont expliqué plein de trucs sur les vaccins, par exemple. Et le nombre de médecins qui ont dû venir répondre à ça, quand je vous dis le nombre d'abrutis, enfin, j'assume mes termes, mais on a même à nouveau des candidats à l'élection présidentielle, si vous reprenez leur déclaration sur la vaccination, il y a des trucs qui étaient ahurissants à l'époque. Donc, à chaque fois, sur des sujets ultra spécialisés, c'était la question qui m'a été posée sur le fait aussi de commenter l'actualité, sur des questions ultra spécifiques, spécialisées au sens de scientifique du terme, tout le monde s'arroge le droit de parler. Donc, il y a une personnalité politique qui est candidate aujourd'hui à la défaite à la présidentielle, qui a expliqué qu'elle ne voulait pas du vaccin à ARN, mais du vaccin produit à Cuba, qui lui paraissait mieux. Sur quel fondement scientifique ? Aucun. Strictement aucun. Juste sur un fondement idéologico, je ne sais pas quoi, parce qu'il préfère Cuba aux États-Unis. En termes de responsabilité politique, c'est un désastre. De venir faire du pseudo-scientifisme, je préfère un truc produit à Cuba que l'ARN américain, c'est, en termes de responsabilité, c'est une absurdité. Il faut encore des cohortes de médecins spécialistes en vaccins pour venir expliquer ce qu'est le vaccin ARN. Donc vous avez totalement raison. L'autre affirme ses âneries en 3 secondes, et il les martèle tant qu'il veut, et il faut qu'ensuite vous subissiez un type pendant 1 heure sur une estrade qui vous explique « non, c'est faux, voilà pourquoi on peut le démontrer ». Mais des fois, c'est beaucoup plus simple. 3 octobre 40, premier statut des Juifs, point à la ligne. Une seule race juive, pas de différence de nationalité ou de citoyenneté, signé Maréchal Pétain, la cause est entendue. Voilà. Et c'est comme pour le discours de Chirac, du moment qu'on vous dit c'est de la repentance, si vous maîtrisez le français, vous savez que c'est pas de la repentance. Non, mais il n'y a pas besoin de m'écouter pour savoir que repentance ne s'applique pas au discours de 95. Vous pouvez le dire vous-même, vous avez dit simple citoyen, je vous rappelle que la population française est constituée de simples citoyens qui ont la même valeur en termes de citoyenneté que n'importe quel candidat à n'importe quel poste électif. Voilà, c'est tout.
Ben merci beaucoup. Est-ce que c'était la dernière question ? Je ne sais pas. C'est la dernière question ?
C'était la dernière question.
Alors moi, un petit mot quand même, parce que, et c'est en lien, monsieur, avec votre question. Je sais qu'il y a un moucheron, j'essaie de ne pas bouger. C'est en lien avec votre question. Un grand merci au Conseil départemental et au Musée de la Résistance et de la Déportation, justement, d'avoir proposé cette soirée, parce que c'est l'occasion et d'avoir eu Tal Brutmann à nos côtés pour ses éclairages, et puis voilà, de se poser, d'échanger ensemble pour que ces questions si sensibles, de manière générale, c'est que le fond de ce qui est dit, sans qu'il y ait cet éclairage historique, remet en cause un certain nombre d'acquis qui ont été fondée par toute une historiographie depuis 40, 50, 60 ans, et que finalement, ce sont aussi des enjeux de société, de citoyenneté qui sont importants. Et donc, le mémorial de la Shoah là, que je représente ce soir, est vraiment très heureux d'avoir pu participer à cette soirée et contribuer, comme le fait cette institution, à éclairer l'histoire. Voilà. Merci Tal et merci à vous.
Même audio, une mémoire sonore.